le mécanisme de l'émotion, hein, de la venue de l'émotion, hein, la venue de l'émotion, pouvait se produire de deux façons différentes. Premièrement, le choc, la surprise, l'émotion pure et qui ne se verbalise pas, impossible à verbaliser. Par exemple, ce qui m'a bouleversé dans l'esquisse pour la danse de Matisse, c'était le bleu. Ce bleu-là, hein, c'est pas n'importe quel bleu, mais tout ce que je peux dire, c'était du bleu. Mais ce bleu-là, hein, cette tonalité de bleu inventée par Matisse, m'a bouleversé au point que j'ai eu larmes aux yeux, donc j'ai quitté la salle immédiatement, je suis pas revenu. Parce qu'on ne pleure pas en public devant un tableau, on peut pleurer chez soi, mais pas en public devant un tableau. Et c'est après, en réfléchissant à la qualité de bleu, que je me suis dit, en fait, dans ce bleu, il y a du rouge qui est caché, et c'est ce rouge qui, depuis le bleu, m'appelle. Mais c'est mon sentiment, peut-être que Matisse n'a pas mis de rouge en son bleu, je pense qu'il a mis de rouge en son bleu. En tout cas, moi, j'ai vu ce bleu avec du rouge, mais chacun voit les couleurs comme il l'entend. Donc, en tout cas, c'est le premier type d'émotion touchée par une surprise, un choc, qui donc, enfin en ce qui me concerne, est un choc visuel coloriste. C'est le coloris, hein, qui me touche et m'appelle. Mais ça, c'est un premier type d'émotion. Le deuxième type d'émotion, c'est quand, avec le temps, avec la durée, avec le fait de revenir, peu à peu, je dirais, comment dire, les couches de sens, hein, le feuilletage, hein, cette accumulation de sens, de réflexion, de méditation du peintre, eh bien, peu à peu, j'ai l'impression que la peinture soulève une partie, hein, puis elle soulève une autre partie, et puis au fur et à mesure, une intimité, et c'est la même chose, au bout du compte, c'est l'intimité. D'un côté, il y a l'intimité du bleu rouge de Matisse, hein, c'est ce rouge-là dans le bleu, et puis de l'autre côté, c'est l'intimité, alors effectivement, je dirais, du peintre dans son œuvre, et aussi de toute son époque dans son œuvre. Parce que la Chambre des époux de Mantegna, ben, c'est vrai que c'est pas seulement Mantegna, hein, qui est un peintre génial, qui était un peintre génial et qui est un peintre génial, mais c'est aussi le commanditaire, le prince Ludovic Gonzague, la femme, et alors là, l'histoire devient passionnante, parce que, comme disait Warburg, hein, au bout du compte, on entend ses voix. On finit par les entendre, les voix des bourgeois florentins qui se peignent dans leur chapelle, parce que là, l'histoire donne une familiarité artificielle. Je ne vais pas prétendre qu'on a l'état d'esprit d'un bourgeois du XVe siècle, mais on finit par rejoindre un horizon jamais entièrement atteignable, mais par se rapprocher d'une intimité de l'œuvre telle qu'elle a été demandée, réalisée et regardée ou vécue, qui est fascinant et qui est très émouvant. C'est très émouvant. Je veux dire que quand à Arezzo j'ai vu, tout d'un coup j'ai vu, ça faisait des heures que j'étais là, tout d'un coup j'ai vu quelque chose que des gens ont peut-être vu avant moi, mais personne ne l'avait noté, hein, qui était la signature théorique et individuelle de Piero La Francesca, de tout cet immense ensemble de fresques, par un minuscule détail qui était en bas à gauche, la dernière fresque, et qui présentait une tête coupée, regardant le spectateur d'un regard aveugle, puisque la tête est coupée donc morte. Là, j'ai vraiment eu le sentiment d'être au plus près de ce qu'avait pu penser, imaginer Piero La Francesca. Alors, il y a peut-être une forme de folie dans cette idée qu'on puisse réatteindre ce qu'a rêvé ou imaginé Piero La Francesca devant sa fresque. Et il faut faire attention à bien faire la différence entre un fou et un historien. Je dirais, les historiens qui sont fous, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Et les fous qui peuvent être historiens aussi. Mais simplement, en l'occurrence, il se trouve que j'ai pu voir ce détail qui était là depuis 500 ans parce que tout le reste de ce que j'avais regardé, commencé à comprendre, tout d'un coup me faisait remarquer ce détail qui était là pour, comme ça, pas forcément pour qu'on le voit. En plus, c'est vraiment un détail minuscule, en bas à gauche, à la dernière fraise, donc il n'y a pas de raison d'y faire une attention particulière. Le principal est au milieu, non pas sur les côtés. Bien, donc, voilà, je dirais, il y a ce double type d'émotion, hein, l'émotion choc devant, pour moi en général, le coloris, hein, c'est-à-dire la profondeur ou le brillant coloriste, j'ai bien coloriste, non pas coloré, de l'heure, ou non pas à l'inverse, mais complémentairement, l'émotion de la densité de pensée qui est confiée à la peinture. Et c'est ce que me gêne dans la peinture, c'est vrai, c'est à travers les couleurs, matières, formes, etc., cette pensée. Il y a quelque chose qui pense, et je n'ai que des mots, hein, pour essayer d'en rendre compte, en sachant pertinemment que ces mots ne rendent pas compte de l'émotion qu'il y a, parce que vraiment l'émotion n'est pas verbale. Donc c'est infini.